seconde table ronde.
Retour de ce colloque éthique spécial santé ce matin, bien-être et nouvelles formes de travail, voilà le thème. On est ravis d'accueillir Thierry Breton. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Institut National du Cancer, bienvenue à vous. Merci. Avec vous, on va voir justement comment doit réagir l'entreprise, quel est son rôle pour le salarié atteint du cancer, voilà, comment on peut réagir à l'annonce, comment on traite ça dans quelques instants. On va parler également de tout ce qui est addiction avec un spécialiste, c'est le docteur William Lovenstein. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour William. Voilà, évolution psychologique du rapport au travail, au télétravail. C'est vrai que depuis quelques années, tout a été bouleversé, chamboulé. Ça y est, c'est inscrit dans le marbre désormais, ce télétravail. Mais est-ce qu'il y a des effets de bord? On va voir ça avec vous, notamment au niveau des addictions. Et puis enfin, un témoignage, celui de Jean-Hugues Zenoni. Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de freelance.com, avoir été pendant de nombreuses années président, voilà, puisque la société a été rachetée, mais vous restez là en tant que vice-président. Et avec vous, on va voir voilà, comment choisir ses conditions de travail, notamment quand on est freelance. Et puis aussi, on pourra parler de votre expérience personnelle, voilà, de chef d'entreprise. C'est pas toujours évident aussi d'être à la tête d'une entreprise qui grossit, qui fait de l'hypercroissance. Exactement. Et ça peut provoquer quelques petits effets de bord, on va dire, là aussi. On va commencer, si vous voulez bien, avec de l'actualité, un bad buzz qu'on a vu en direct la semaine dernière. C'est pas une altercation, mais peut-être un mauvais mot, elle s'en est excusée, de Léa Salamé avec Artus, qui est comédien et qui vient de tourner un film. Justement, sur le rapport à l'alcool, Léa Salamé va tacler Artus, qui se défend pas mal, mais ça en dit long sur notre rapport. On va en parler dans quelques instants. On écoute d'abord la séquence.
C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très, très gros angoissé.
Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer.
Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant.
Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément.
Oh là là, dis donc.
Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc là? Si j'avais dit j'arrêtais la coke, tout le monde m'aurait dit putain bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke.
C'est vrai,
ah, génial.
C'est vrai,
en France, tu dis t'arrêtes de boire.
Voilà, petite passe d'armes, c'était sur le plateau de quelle époque, avec Léa Salamé qui s'essaye peut-être à une petite vanne, alors peut-être dû laisser ça aux spécialistes, voilà. Mais ça en dit long, Dr. Weinstein, sur justement notre rapport à l'alcool, aux drogues, justement Artus qui en plus en a souffert, hein, il explique après un peu plus loin dans la séquence que ça a vraiment été très très difficile pour lui, qu'il faisait des comas, etc. Et là, finalement, on stigmatise un peu le fait.
Alors,
de, voilà.
De façon étonnante, parce que je pense que, évidemment, c'est une femme très intelligente, Léa Salamé a manqué de finesse, et je dirais même de générosité ou d'attention. Artus a été remarquable dans ses réponses, mais Léa Salamé aurait peut-être pu, plutôt que de partir sur le « alors maintenant t'es chiant si t'as arrêté de boire, de fumer », Léa Salamé aurait peut-être pu féliciter Artus en lui disant « bravo, quelle belle démonstration de l'idée que pour être un bon vivant, mieux vaut rester vivant ».
Pour être un bon vivant, mieux vaut rester vivant.
Voilà. Et en France, il y a cette difficulté. C'est-à-dire que là, la séquence, elle est exemplaire sur plein sur beaucoup de points, quoi. Se dire qu'on est chiant si on arrête de boire, alors que Artus, le disant lui-même, je peux le répéter, il faisait des crises d'épilepsie gravissimes à son sevrage, qu'il y a deux sevrages qui tuent encore en France, c'est pas ceux de l'héroïne, de la cocaïne, c'est ceux de l'alcool et des benzodiazépines, quoi. Or, notre alcool, si on en dit du mal, vous le savez, on n'est plus patriote. C'est un grand problème. J'ai envie de dire, c'est comme quand on dit du mal des sportifs du dopage. Non, c'est comment maintenant on arrive à protéger ce qui peut nous faire rêver, ce qui ne peut nous faire être encore une fois un bon vivant, et plutôt que t'es chiant, j'eusse aimé que Léa Salamé dise encore une fois, pour être un bon vivant, apprenons à rester vivant.
Ouais, et donc bravo à Artus, évidemment. C'est vrai ce qu'il dit aussi, par exemple, sur tout ce qui est, vous, qui est spécialiste des addictions, sur la cocaïne, etc. Est-ce qu'il y a des cas, justement, est-ce que vous avez un sentiment qu'on a eu plus recours à tous ces dérivatifs nettement depuis la crise sanitaire?
Nettement, oui, je dirais depuis la crise sanitaire, parce qu'il y a eu la solitude, l'angoisse de la mort, de la maladie, la distance avec le travail qu'on va évoquer. Mais depuis 6 ans, en tout cas en France, on est passé, souvenez-vous, d'une mondialisation heureuse à l'Europe est mortelle. J'ai entendu ça, je crois, de la bouche de notre président il y a quelques semaines. C'est un grand décalage, quand même, dans la pesanteur. Mais il y avait un très bon papier, deux très bons papiers d'Anne de Guigné dans le Figaro, je crois, avant-hier, 21 mai, oui, avant-hier. Il y en avait un qui était sur les séquelles du Covid. Elle dit du Covid, on peut dire de la Covid, du Covid, peu importe. Et on est 4 ans, souvenez-vous, là, après la fin du premier confinement. Il faisait beau en mai, mais quel bouleversement hallucinant, dont celui du télétravail, je pense qu'on évoquera. Mais plus globalement, on est redevenu conscient de l'évolution darwinienne, qu'un des candidats aux européennes disait, il serait temps de passer de la démocratie de confort à la démocratie de combat. Ce que tout le monde réalise,
oui,
c'est que maintenant, entre guillemets, pour survivre, va falloir être plus fort, plus adapté, que ça soit économiquement, socialement, militairement. On est sorti du canapé même imposé pendant la période Covid pour arriver à cette démocratie de combat. Et oui, ça, c'est de l'incertitude, de la dynamique, un vrai inversement. Je vois les patients que je peux voir. S'ils ont besoin de plus de force, on revient à votre question et donc à la nécessité de produits dopants pour booster tout ça. Mais le changement vraiment de comportement, de vision sur l'avenir, encore une fois, je leur dis, en 6 ans, on est passé quand même d'une mondialisation heureuse à l'Europe est mortelle, quoi.
Oui, et même à une certaine forme de protectionnisme un peu anxiogène, on va dire. Jean-Luc Zanoni, bah vous avez vécu toute cette période à la tête d'une entreprise florissante, hein, freelance.com. Quelques chiffres là justement sur la croissance, parce que vous avez commencé, pas dire dans votre garage, mais
alors,
mais,
alors, c'est, alors c'est assez petit. J'ai été dans une société que j'ai fondée en 2011,
oui,
et que j'ai revendue à freelance.com en août 2023. Donc la société a démarré, que j'avais créée, qui s'appelait Le Monde Après.
Oui.
C'était donc le monde après, justement, les nouvelles technologies, l'apparition des nouvelles technologies et la modification du rapport à l'autre. On est passé de 1, 2, 3 millions de chiffre d'affaires par an à 70 millions lorsqu'on l'a vendu à freelance.com. Et par contre, freelance.com, son histoire est aussi phénoménale, puisqu'il y a 10 ans, elle faisait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires pour arriver aujourd'hui à 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors ça se fait pourquoi? Parce qu'on s'occupe beaucoup de la relation entre les entreprises et les freelances, c'est notre métier. Et les nouvelles organisations du travail, le rejet de l'autorité, le besoin de liberté, propulsent cette nouvelle organisation du travail avec des freelances qui travaillent alors soit chez leurs clients, soit chez eux. Mais on se rend compte que 80% des freelances en mission travaillent en fait sur le lieu de travail de l'entreprise.
Et physiquement, ils y vont.
Ils y vont, absolument. Ouais, tout à fait. Voilà, donc le Covid a accéléré cette mutation. Lorsque nous avons vécu le Covid, on en a profité pour occuper nos salariés, à les former. Et on les a formés à quoi? On les a formés à la relation interpersonnelle, à la communication non violente, à des atouts qui leur permettent de comprendre mieux l'autre. Ce qui fait que quand ils sont revenus au travail, il y avait eu une progression sur ce niveau-là.
C'est ce qu'on appelle les soft skills. Hein,
voilà, des soft skills, absolument. Bien que certains, et là je parle docteur, avaient le syndrome, dit-on, de la cabane. Ouais. Certains ne voulaient plus sortir de leur cabane, ils s'étaient calfeutrés, ils n'y allaient plus. Et même des jeunes qui n'étaient pas du tout sujets pour avoir la Covid, malgré tout, ils étaient très peureux et très frileux à revenir au travail. Donc petit à petit, les effets secondaires du Covid se sont estompés. Les gens ont pris plaisir à revenir quand même au travail. Et puis, il y a une sorte de mixte qui se fait entre la vie à la maison avec le travail et la vie en communauté, où là il y a des frictions, il y a des interactions, il y a des besoins qui apparaissent, qui n'apparaissent pas lorsque l'on est en télétravail. Et nous, ce qu'on a retenu chez freelance.com, c'est 2 jours en moyenne par semaine, pour ceux qui le souhaitent, c'est pas du tout obligatoire bien entendu, à la maison, en télétravail, et puis 3 jours au moins sur
2 jours autorisés,
voilà, 2 jours autorisés.
Pas pour conseiller ou
mais voilà, c'est de la flexibilité, si les gens n'ont pas besoin, ben ils viennent 5 jours et c'est très bien comme ça.
D'accord, on verra ça dans quelques instants, et puis nous ferez part de votre expérience personnelle. On termine le tour de table avec vous, Thierry Breton, donc directeur général de l'Institut National du Cancer. Là, avec des choses aussi plus graves. Alors, c'est vrai qu'en première table ronde, on a évoqué les pathologies classiques, les troubles musculo-squelettiques, phénomènes d'anxiété qui sont répandus, qui sont peut-être démultipliés. Et puis, il y a peut-être le stade encore plus avancé, malheureusement, le cancer. Hein. Vous avez quelques chiffres également à nous partager, des éléments chiffrés sur le cancer en France.
Oui, quelques éléments pour mesurer un peu, l'ampleur du phénomène. Hein, malheureusement, même si l'objectif de l'Institut national du cancer et de tous ceux qui travaillent dans ce champ-là, c'est de réduire le nombre de cas de cancer et l'impact de la maladie, ça reste une maladie qui progresse en nombre. Pour une raison simple, hein, c'est que la population vieillit et elle augmente. Oui. Donc, on a mécaniquement, une augmentation du nombre de cas de cancer. Aujourd'hui, on estime à peu près à 430 000 nouveaux cas par an, hein, ce qui est beaucoup. Et un chiffre qui est important parce que c'est ça qui nous a motivés pour vraiment travailler et essayer de coopérer avec les entreprises, c'est que on estime que sur ces 430 000, il y en a à peu près 40% qui sont en situation d'emploi.
Donc ça ferait quoi, 150 à 200 000 salariés?
C'est pas une science exacte, mais c'est un ordre de grandeur, donc c'est beaucoup.
Oui.
Donc c'est beaucoup. Et quand on regarde de manière un peu plus précise encore, on se rend compte que dans cette population-là, il y en a un cinquième, un quart qui va perdre son emploi dans les 5 ans qui suivent le diagnostic ou qui va pas pouvoir revenir à l'emploi. Et ça, c'est problématique. C'est problématique de 2 points de vue parce que en réalité, ça met les salariés en difficulté. Et donc, il y a une perte de revenus aussi, hein, qui est important, dont il faut tenir compte. Ça crée un risque de désinsertion sociale. Et finalement, ça ne permet pas aux salariés et ça n'aide pas les salariés dans le processus de rétablissement, alors qu'on a des études qui montrent que lorsque c'est possible, bien sûr, la participation à la communauté de travail, être dans un collectif, avoir des objectifs, participe aussi au processus de rétablissement et va aider le salarié aussi à mieux guérir. Donc c'est vraiment très important. Et nous, on travaille à l'Institut avec d'autres, hein, justement, pour faire prendre conscience de cette situation-là et de la nécessité pour les entreprises d'essayer d'aborder ce sujet-là qui reste quand même très difficile. Hein. C'est un peu tabou. Tout le monde n'a pas envie d'aborder la maladie en entreprise. On sait que c'est des questions qui sont délicates. Les conséquences peuvent être un peu appréhendées. Mais il faut qu'on travaille et on a constitué un club des entreprises qui réunit quelques entreprises mobilisées sur cette question-là pour défricher un peu le sujet et essayer de proposer des outils opérationnels.
C'est vrai qu'en général, la maladie fait peur, le cancer en particulier. On a, vous l'avez dit, la crainte de perdre son emploi, donc peut-être de rétention d'informations de la part du salarié. Et puis le fait que, est-ce qu'on a en face des managers qui sont supportifs, qui savent comment appréhender la nouvelle? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez, vous les formez?
Oui, alors nous, on ne forme pas directement, mais on aide les entreprises à les sensibiliser, à leur passer des bons messages. Faut imaginer ce que c'est que la situation d'un manager qui a face à lui quelqu'un qui lui dit qu'il est touché par un cancer. Je pense que c'est vraiment pas facile à gérer, je veux dire, en dehors de toute question RH, humainement, parce que en fait c'est un diagnostic qui reste, c'est une maladie qui est aiguë et qui est mortelle, et même si la connaissance a progressé, on voit que elle est difficile à aborder. Donc le manager, il peut être un peu désarçonné, il peut être désarmé, il peut ne pas savoir quoi faire en fait, et il peut avoir aussi des réactions qui ne sont pas appropriées. Et dans ces situations là en réalité, il va utiliser des mots qui peuvent avoir un retentissement qui ne sont pas du tout ceux qu'il pense, mais qui peuvent être très très forts chez le salarié en fait. Et donc il faut arriver à sensibiliser le manager, à la fois à identifier des situations dans lesquelles potentiellement il y a une problématique. Aujourd'hui, avec l'évolution des traitements, on a des effets secondaires qui ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que la perte de cheveux, par exemple, vous voyez, des éléments un peu caractéristiques qui permettent de dire oui, bon.
Si on est traité en chimiothérapie, évidemment, en radiothérapie.
Voilà, les effets secondaires ont un peu changé, c'est plus forcément ça, donc c'est moins facile à détecter. Et puis surtout, ensuite, si le salarié aborde le sujet, c'est quel mot il doit utiliser pour pouvoir aborder le sujet. Et puis après, il y a la question de l'organisation du parcours et de l'organisation RH. Mais il y a une réaction humaine qui n'est pas simple quand on n'a pas un peu de connaissances et quand on ne sait pas quels sont les mots qu'il faut plutôt privilégier. C'est ce sur quoi, entre autres, on a travaillé dans le Club des entreprises, avec les entreprises. Hein. Nous, on est là pour faciliter. Mais quels sont les conseils, les indications qu'on peut donner aux managers pour éviter et faire au mieux, en fait, d'un point de vue humain, et puis après, il y a la partie RH.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut garder son humanité. J'ai en tête l'exemple, effectivement, d'une RH qui, elle-même, avait été touchée, qui s'était retrouvée un peu chez elle, un peu esselée, et qui s'étonnait que personne prenne de nouvelles d'elle, finalement. Comme si, une fois qu'on n'était plus dans l'entreprise, ça y est, on n'en parlait plus, on mettait ça. Et du coup, quand elle est revenue à l'emploi, ce qui n'était pas évident, parce que on vous remplace, hein, il faut que la boîte continue à tourner. Donc, elle avait repris son poste, et du coup, elle était sensibilisée, et elle l'avait mis en place.
Malheureusement, le sujet que vous évoquez est un sujet important, mais c'est le code du travail qui est limitatif. Et normalement, il ne vous permet pas de communiquer, il ne permet pas à l'entreprise de communiquer avec le salarié quand il est malade. Ce qui est un peu dommage.
Ah ouais. Mais on peut le faire de manière même interpersonnelle.
Oui.
Mais ça reste difficile en plus de demander à quelqu'un comment ça va, où tu en es, sans rentrer dans les détails de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, etc. J'ai envie de dire, on demande à l'entreprise de faire quelque chose qui est déjà extrêmement compliqué pour des proches. Ce qu'on peut peut-être, de point de vue overview, c'est comprendre qu'un diagnostic de cancer reste pour la plupart d'entre nous, pour nos contemporains, quelque chose de lourd, de difficile, qui veut dire, au fond, l'exclusion de la tranquillité, de la santé. Si se rajoute l'exclusion de l'entreprise, ça fait beaucoup pour quelqu'un. Et à ce moment-là, si vous avez cette image de la personne RH toute seule chez elle, dont personne prend des nouvelles, c'est plus une exclusion, c'est un abandon certifié. Oui. Et là, c'est lourd parce que c'est à la fois la maladie, elle reste vécue comme une injustice. Rappelons-le, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça me touche moi? Quel que soit le rationnel, génétique, familial, environnemental. Je parlais un peu de reprise du darwinien, vous voyez, dans notre époque. Mais c'est comme si on perdait, quoi. Au 18e siècle, si on était malade, c'est parce qu'on avait fait des fautes. Là, et l'entreprise ne doit surtout pas aller dans ce sens-là, si nous sommes malades, c'est le risque d'être considéré comme un loser. Donc s'il y a une vraie exclusion de l'entreprise en même temps que ce sentiment où il faut se batailler, et les entreprises d'habitude sont bien pour le combat, on passe de la démocratie, de confort à la démocratie de combat, mais à condition qu'elle puisse, la réflexion de Thierry Breton est excellente, quoi, dans le code du travail, genre, attendez...
Oui. Donc nous, on
pas
a
d'invasion.
On incite sur une base volontaire. C'est pas tout à fait complètement conforme, mais on dit si le salarié est d'accord et si l'entreprise. Voilà. Enfin, il faut garder un lien, c'est très important, et il faut préparer le retour aussi. Il y a des dispositifs qui, pour le coup, existent dans le code du travail, qui s'appellent la visite de pré-reprise, qui sont très peu mobilisés, et pourtant ils sont utiles. Et c'est dommage. C'est dommage parce que
donc finalement on a l'arsenal pour du moins
on n'a pas tout à fait l'arsenal, mais on a des outils, et les outils quand ils existent sont pas assez utilisés, mais c'est pas tout, enfin c'est quand les propos que je tiens ne vont pas du côté de l'entreprise, c'est aussi le salarié qui les mobilise pas et qui doit être informé en fait.
Qui doit être informé effectivement. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent l'entreprise c'est quand même le monde de la performance, notamment pour le chef d'entreprise Jean-Luc Zénoni. Vous-même, c'est vrai qu'on pousse un peu la machine, on compte pas ses heures, on a un équilibre de vie professionnelle, personnelle, alors qui est très en ce moment, peut-être en train d'être rétabli ou demandé par les plus jeunes, c'était un peu plus compliqué.
Je vais parler de ce cas personnel qui me touche, mais avant, je vais peut-être revenir très très rapidement sur les nouveaux modes d'organisation du travail, parce que c'est phénoménal, je ne sais pas si on se rend compte, il y a plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs, il y a plus d'un million de sociétés avec CABIS, donc de personnes unipersonnelles qui font des services. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui passent par exemple par le portage salarial. Donc c'est une révolution du mode d'organisation des entreprises parce que les gens ont le rejet de l'autorité, besoin de liberté, et ça passe par une sorte de, là on est un peu dans les soft skills, de santé mentale, et les gens veulent s'épanouir différemment et veulent presque même gagner parfois peut-être un peu moins au début parce qu'il faut qu'ils installent leur nouvelles conditions, mais pour gagner plus en confort moral, plus en liberté. Je veux travailler du Portugal, je veux travailler d'Allemagne, je veux travailler de, voilà.
Je veux pouvoir poser mes vacances quand
je veux pouvoir poser mes vacances quand je veux. Je veux même choisir mes clients. Je vais en choisir même plusieurs. Je vais renforcer mes compétences en allant travailler dans différentes entreprises. Et ça, c'est vraiment une véritable révolution. Et les entreprises entreprises qui ont besoin de compétences vont chercher souvent chez ces freelances la compétence qui leur manque. Cette personne, elle n'a pas de passé, elle n'a pas de futur, elle arrive neutre et positive, et elle est capable d'apporter des solutions véritablement très innovantes et qui vont impacter fortement l'entreprise, alors que on est entre soi d'habitude, un peu l'esprit de clocher, tout le monde pense de la même manière, et l'entreprise parfois s'affaisse sur elle-même. On est effectivement aujourd'hui dans une phase darwinienne, on n'a plus le temps trop de la réflexion, on est vraiment dans le temps de l'action, et les consultants peuvent apporter cette action très rapidement.
Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est tous freelance demain ?
Bah, presque, ouais.
Fin du salariat.
Voilà, mais
souvent annoncé, mais finalement, ça résiste quand même.
Non, mais on va garder les invariants du monde d'avant, qui sont très bien, donc la protection sociale, le chômage, la retraite, la prévoyance, etc., etc. Ça, c'est des très bonnes choses. Tant qu'on peut les financer, c'est super. Mais par contre, le mode d'organisation, une fois que ça s'est acquis, lui va être révolutionné, est en train de se révolutionner. Le petit chef qui vous demande de venir le vendredi soir à 17h, de traverser tout Paris, juste pour montrer que c'est lui le boss, bah, celui-là, il est mort, et l'entreprise qui l'incarne...
C'est pas plus mal.
Oui, c'est vraiment pas plus mal. Alors, pour revenir sur le sujet un peu plus personnel, effectivement, moi, au bout de 14 ans de vie intense de chef d'entreprise, j'ai eu un coup de barre.
Alors, attendez, vie intense, c'est quoi ?
Bah, c'est négocier avec les banques des prêts, c'est gérer des centaines et des centaines de consultants dans plusieurs pays, c'est créer des bureaux en Angleterre et en Belgique, créer des filiales, des antennes dans toute la France. Voilà, c'est passé de 1 million à 70 millions de chiffre d'affaires.
Ouais. Volume d'heures travaillées pour vous par semaine. 35 heures sont faites en 2 jours.
Ouais, 7 jours sur 7. Écrire des blogs, des articles de blog jusqu'à 23h minuit très régulièrement.
Ouais, mais ça, vous n'êtes pas forcé, c'est votre passion.
Non, mais c'est un plaisir. Et puis c'est une addiction. Et puis moi, je marchais dans la rue, je voyais en fait des ombres, c'était plus des personnes. Tout mon cerveau était focusé sur ce projet d'entreprise. Et on se déconnecte, alors volontairement quelque part, hein, mais c'est une addiction.
C'est une obsession, en tout cas.
Une obsession, exactement.
Avec
sa production, voilà, j'ai eu la chance que ça marche. Ça aurait pu ne pas marcher, je pense que ça aurait été une catastrophe à titre personnel. Mais ça ne m'a pas empêché, bien que c'était très souriant et que ça marchait très très bien, bah d'avoir un gros coup de barre, de faire plusieurs jours en clinique, en repos professionnel. Effectivement, là,
ça arrive d'un coup, dans ce cas-là.
Ouais, ça arrive d'un coup. Mmh. Ouais, c'est la goutte d'eau qui fait.
J'avais organisé. Petits signes avant-coureurs.
Ouais, des petits signes avant-coureurs. Voilà.
J'en peux plus.
Voilà. Encore, j'organise un séminaire à Lyon, puis je dis au community manager, non, je viendrai pas. Voilà. Mmh. Parce que c'était la goutte d'eau de trop, quoi.
Ouais. C'est trop. Voilà. Voilà. Il y a un moment donné.
À un moment donné, c'est plus possible. Et j'ai fait face, comme votre RH, là, à une sorte de blocus, alors qu'on était vraiment comme une meute, toujours ensemble, à travailler 24 heures sur 24 quasiment, à un blackout presque du jour au lendemain. Quoi.
Mais c'était, vous avez le sentiment à ce moment que c'était du respect, de dire, bon, il a besoin de tranquillité,
de
on
la peur,
pas.
De la peur, la maladie fait peur.
La maladie fait peur.
Et même si on est cool, sympa, et que... On est quelqu'un qui a une facilité interpersonnelle. Tout d'un coup, ça fait peur. Et je pense que, voilà, bon, c'est pas forcément évident pour moi d'en parler, parce que bon, c'est un peu se dévoiler. Mais d'un autre côté, je pense que c'est très productif, dans le sens où ça va peut-être permettre à certaines personnes de se décomplexer par rapport à ça. Moi, la preuve, j'ai mis deux pieds à terre, hein, enfin deux genoux à terre, et je me suis relevé, et ça m'a pas empêché de continuer, de pouvoir vendre ma société dans de bonnes conditions. J'ai mes trois enfants que je me suis remarié. Enfin voilà, la vie continue et c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est le pouvoir du rebond. Parce que même quand on mord la poussière, quand on est à cette phase-là, on croit qu'on va pas forcément remonter. Et finalement, le soleil se relève, les opportunités se représentent et la vie est plus forte que tout et la vie vous emporte.
Monsieur Weinstein, rebondir pas personnellement mais plus globalement sur votre discours, j'ai bien aimé votre association entre liberté et travail. Et c'est ce que j'entends, pas simplement chez mes patientes et patients, vous voyez, mais je dirais chez une nouvelle génération. On n'est plus dans liberté, égalité, fraternité, même si ça reste merveilleux comme trilogie. On est, me semble-t-il, dans planète d'abord, ou nature. Mmh.
Complètement.
Une vraie considération pour les 20-40 ans, et même si politiquement on a bien compris que là, la fin du mois l'avait emporté sur la fin du monde, ça va pas pouvoir être longtemps ainsi. On est dans liberté, travail, planète. la trilogie. Mmh. Et liberté de travail que vous avez bien souligné avec le nombre d'auto-entreprises, éventuellement les deux jours à la maison, les quatre jours par semaine maintenant, peut-être. Mmh. Évidemment, pour les macroéconomistes, quelque part, c'est une catastrophe parce qu'ils ont l'idée quand même de l'hyperproductivité, puisque toujours Darwin, on n'est pas simplement avec la Russie d'un côté, on est en concurrence productive avec la Chine, les États-Unis, ce qui ajoute à l'angoisse de chacun. Mais cette idée de comment... Alors, est-ce que c'est un triangle évidemment planète, mais liberté, travail, productivité, parce que là, je reviens Darwin... va se faire bouffer. Je lisais toujours Chitane de Guigné, pardon, dans le Figaro, il y a deux jours, où elle fait à la fois les séquelles du Covid, mais aussi, elle souligne sur les investissements, un truc qui m'a frappé, mais comme profane du point de vue économiste, c'est que les Français investissent quatre fois plus à l'étranger, je crois que c'est 60 et quelques milliards, que les étrangers, que tout le monde entier n'investit dans notre pays, qui doit être le choose friends, vous voyez, mais...
Oui, nous, on ne choisit pas
friends,
forcément.
Mais peut-être pas pour les Frenchies, vous voyez. C'est quand même un truc un peu révélateur, enfin, qui m'intéresse, quoi, comment à la fois on se dit faut du protectionnisme, et on voit bien que pour être productif, les Français, les entrepreneurs qui sont des vrais preneurs de risques, ce qui fait que de temps à autre, il y a des coups de pompe, hein, quand même, comme ça, et à 110, 120 heures de boulot par semaine minimum, qu'est-ce qui fait que les Français, pour réussir, entre guillemets, maintenant choisissent, vous voyez, d'investir, enfin les Français entrepreneurs, choisissent d'investir quatre fois plus à l'étranger, ce qui pourrait être qu'en France. Alors qu'en France, ça pourrait être leur maison, leur patriotisme, leur confort.
Après, c'est peut-être aussi des investissements. Voilà, on sait qu'on a aussi une galaxie de multinationales qui investissent. Oui, Thierry Breton.
Oui, sur le sujet des indépendants de ces nouvelles formes, elles ne sont pas vraiment nouvelles, mais en tout cas, on voit effectivement ces aspirations. Alors, sans doute, parfois, ce n'est pas tout à fait le fruit d'un choix totalement...
c'est vrai.
En responsabilité. Je pense qu'il y a une partie qui est subie, mais je trouve que du point de vue santé... ça pose une question qui est encore plus compliquée que celle du salariat.
Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est tout seul.
Parce que quand vous êtes indépendant, comment vous faites pour assurer vos revenus de remplacement ? Enfin, vos revenus...
Où est la médecine du travail quand on est indépendant ?
Où est la médecine du travail ? Pour les indépendants, je dirais l'impact santé d'une maladie, et notamment dans le cas du cancer, il est vraiment redoutable, mais il est terrible parce que...
Il n'y a pas de filet de sécurité.
Très peu de filet de sécurité. Vous vous retrouvez tout seul, vous perdez vos revenus, sauf si vous trouvez parfois, il y a des expérimentations qui vont vers des systèmes un peu de remplacement, mais enfin, ça ne peut pas être généralisé. Et puis, vous êtes seul, quoi. Où est le alors vous êtes seul bien sûr vous alors, avez vos proches vous avez votre
non,
famille
non mais c'est intéressant mais je pense cas, réponse alors, puisque vous avez forcément eu le cas
mais
sur
vous
des
plus de collectifs de travail ouais.
le portage salarial est la réponse à ces questions. Le portage salarial, c'est un moyen qui permet à un indépendant d'être attaché à une entreprise qui va le salarier soit en CDD soit en CDI et qui va lui permettre, en cas de maladie, d'être complètement protégé comme un salarié traditionnel, avec de la prévoyance, de la santé, de la retraite, chômage, etc. Donc, on a bien compris qu'effectivement, il n'était pas question de partir à l'aveuglette et de prendre énormément de risques. Il y a une partie de risque quand même qui est importante, c'est déjà de trouver ses missions. Mais il y a également une partie de sécurité qui est très très importante. Donc là, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Après, c'est l'entrepreneur indépendant qui, lui, a un cabis, qui lui a créé une société, qui effectivement a une prise de risque plus importante, mais je dirais à lui de prendre des assurances complémentaires, à lui de prévoir l'avenir, et en France on aime bien que l'État prévoit tout, il faut peut-être mettre un peu plus de Darwin et un peu plus d'anglo-saxon dans nos réflexions, parce que l'État ne sera pas forcément la réponse à toutes nos questions, et l'individu en question, quand il prend sa SASU ou sa SARL, il doit prendre les bonnes assurances. On a des grandes compagnies leaders mondiales comme AXA, pour ne pas les citer, qui vous font des contrats sur mesure et qui vous protègent véritablement en cas de pépin. Donc on a quand même aujourd'hui une maturité. Il y a 15 ans, je ne vous aurais pas dit le même discours. Aujourd'hui, on a vraiment une maturité à ce niveau-là qui est très importante et qui permet d'être à l'aise dans cette nouvelle forme d'organisation du travail.
Oui. En revanche, qu'on peut souligner, Jean-Yves Zanoni, c'est pour aller dans le sens de Thierry Breton, c'est vrai que là aussi, quand on démarre son activité, on pense que ça soit choisi ou subi, parce qu'on a aussi des gens qui se font lourder et puis qui deviennent consultants du jour au lendemain, et pourquoi pas, qui changent de vie. C'est vrai que c'est quelque chose à réfléchir et à faire vraiment peut-être en priorité, parce que l'activité, la recherche de clients, c'est bien, mais c'est vrai que là, on est l'homme clé dans toute sa
exactement.
Mesure.
Exactement. Hein.
Et la question se pose aussi pour les artisans, dès lors qu'il y a quelqu'un qui est tout seul dans son activité. Je dis indépendant au sens où on l'a entendu là, mais les artisans, c'est pareil. Hein,
l'artisan. Les libéraux,
un plombier qui est tout seul, tout d'un coup, il est malade. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Effectivement, il y a des possibilités, mais ça a un coût, il y a un certain nombre de garanties qui peuvent exister. Mais le risque de désinsertion, pour employer des mots un peu. Il est plus important, parce que le collectif, malgré tout, il est un peu plus loin que quand on est salarié, ou même si c'est pas parfait, on a quand même des collègues, des choses qui peuvent exister, qui peuvent aider à maintenir ce lien-là et aider à passer cette période qui est très difficile.
Mais les médecins libéraux, tu vois, ont intérêt à pas être malades, pour prendre l'exemple, parce que le système, alors qu'il pourrait concerner peut-être aussi les architectes, sûrement les avocats, même s'ils sont souvent mieux organisés en termes de protection maladie, protection sociale, on peut mettre tous les libéraux et indépendants dans cette menace, où encore une fois, s'il y a problème... Il y a parfois chute irréversible avec une angoisse majeure maintenant d'être exclu de cette accélération. J'ai toujours la vision, quand j'avais visité le Vietnam il y a des années et des années, de ce train qui laissait sur le côté, tu vois, le Vietnam était parti sur une dynamique économique hallucinante et on le sentait. Il y avait ceux qui étaient dans ce train et ceux qui restaient à côté. Mais ceux qui restaient à côté, c'était pas parce qu'ils étaient forcément mauvais. Certains étaient malades. Et c'est là où on a vraiment... je reviens à Darwin, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Des plus en difficulté, dans une période de vie ou plus souvent, des plus vulnérables. Le modèle américain l'emporte, quand même. Et en plus, on est en concurrence avec le modèle américain. Donc notre protection sociale pour laquelle... Comme disait notre président, on dépense
un pognon de dingue.
Ouais, je voulais pas le dire, voilà. Un pognon de dingue, qui protège-t-elle vraiment, quoi? Comment elle fonctionne? Et Thierry est en face de moi, tu vois, toujours à l'Institut National du Cancer, pour lequel, tu le sais, une grande admiration et la place des addictions, tu vois, le rôle de l'alcool, dont parlaient Léa Salamé et Artus, dans les cancers. Cancer du sein, octobre rose, tu vois.
Facteur causant.
Oui, bien sûr.
Tabac, c'est 45 000 décès.
75 000.
Et 75 000, toute pathologie.
Voilà. Ouais.
Toute pathologie, mais 45 000 par cancer.
Par cancer.
Et alcool, c'est 16 000. Quand on regarde, en fait, le champ du cancer, si on veut réduire le nombre de cas, le sujet le plus. Et la priorité, c'est celle de la prévention. Ouais. On a 40% des cancers qui sont évitables, donc qui sont liés à des
alcool,
facteurs de risque.
Tabac, sédentarité, obésité,
alimentation, etc.
Environnement, éventuellement.
Voilà. Alors, donc,
des sujets qui sont extrêmement difficiles, parce que c'est très bien documenté, c'est très connu, on sait ce qu'il faut faire, mais les leviers d'action.
Ouais.
Les changements de comportement, ça se crée.
Et d'autant plus en entreprise. Alors, le tabac est interdit.
D'addictologues ou d'intervenants en addictologie dans les services de cancérologie. Tu vois, les chiffres que tu donnes, ils sont révélateurs, quoi. C'est une part importante des mécanismes cancérigènes. Mais quand tu regardes combien de personnes capables de prendre en charge le problème addictologique en cancérologie, il y a quelques services en France, mais très peu.
C'est caractéristique, alors j'enfonce des portes ouvertes, on a déjà entendu ça 10 fois, mais c'est caractéristique de notre système de santé. Un système curatif. On est très bon quand la maladie est là, diagnostiquée et traitée. Pour éviter la maladie, on est quand même beaucoup, beaucoup moins bon, quoi.
On est des grands diagnostiqueurs des grands parleurs, parce que tu nous dis pour les traitements, on est très bon. Nous, le fume, peut-être, et ça.
Ah non, on est très bon encore.
Ouais. Tu connais les positionnements un peu. J'ai envie de dire quand même, le préventif, ça a toujours été une catastrophe. Réservé aux anglo-saxons, y compris en harm reduction, en réduction des risques. Le diagnostic, notre grande grand plaisir médical français, quoi. Et le thérapeutique, c'est finalement assez récent, quoi. C'est il y a une quarantaine d'années qu'il y a eu des profs, des PUPH, en thérapeutique, ça n'existait pas avant, tu vois. Donc,
bon, la France, mais comme d'habitude, champion du monde des diagnostics.
Voilà, comme des bavardages, comme des plateaux, plutôt que des actions, malgré.
Et des traitements, quand même, parce que c'est juste pour citer une étude récente qui a été faite au niveau européen, où on voit que, quand même, si on prend l'indicateur qui est celui de la survie à 5 ans, on est quand même mieux positionné que la moyenne européenne, parce qu'on a accès, et il faut quand même le dire, hein, parce que le système est très généreux. C'est 300 milliards d'euros à peu près la santé en France, hein. Tout compris. On a accès à des traitements qui sont très coûteux mais très efficaces. Et puis on a une communauté qui se mobilise, qui fait des optimisations, qui élabore des stratégies thérapeutiques, les perfectionne d'année en année. Et donc on est passé de 3 cancers sur 5 à 5 ans sauvés. 60% de survie dans les années 50-60. Aujourd'hui, on a 80% en moyenne. Alors dans ce panorama là qui est un peu très positif, il y a des situations qui sont vraiment très mauvais pronostics. Mais il y a quand même un progrès. Les derniers traitements qui sont accessibles aujourd'hui en France, qui sont les CAR-T, donc c'est 300 000 euros le patient, hein. Alors, il y en a 300 à 400 en France, les indications sont peu nombreuses, mais on a accès à ça.
Ouais, c'est formidable.
On a assez à ça.
Juste donc une question. Il faut des entreprises qui marchent bien pour payer tous ces
exactement, ouais, c'est vrai. Il vaut mieux.
on a besoin de vous et vous avez besoin de nous. C'est bien.
Ils sont largement passionnés. Justement, tiens, pour effectivement revenir à l'entreprise. Alors, on n'a pas le droit de fumer dans l'entreprise. On voit des gens qui vapotent.
Ça, c'est fait. Mais ça, c'est dans le règlement intérieur. Alors,
L'alcool, c'est plus compliqué.
Il n'y a pas de position officielle pour le dire comme ça, si ce n'est une tendance au vape bashing en France, alors que c'est tout l'inverse au Royaume-Uni. Il y a un soutien extraordinaire comme meilleure sortie du tabagisme au sens de... Les Anglais ont dit, voilà, le tabac, la nicotine ne sont pas les ennemis principaux. L'ennemi principal, c'est la combustion. Donc, la vape, on soutient, on fait 500 000, le dernier cadeau, entre guillemets, de l'État anglais à ses concitoyens, 500 000 vapoteuses. En France, il n'y a pas encore de décision parce que on se retrouve, d'ailleurs, comme pour d'autres sujets, je pense au cannabis, mais je referme vite la parenthèse, on se retrouve à une absence de consensus scientifique large. Et le politique, depuis le principe de précaution, s'il n'est pas certain de tout, voilà, il s'en contamine, c'est pas simple pour lui. Donc il peut pas forcément s'adosser à un avis unanime sur ce sujet-là. On voit quand même que la jeune génération fume au sens combustion de moins en moins, vapote de plus en plus, et on peut espérer là une franche réduction à la fois du risque de cancer et des soucis cardiovasculaires et respiratoires, avec, il faut le dire, et pas se tromper d'ennemi, la nicotine est une molécule qui est embêtante parce qu'elle rend accro, mais elle rend accro d'autant plus qu'elle est fumée. Je connais très peu d'accros, franchement, au patch nicotinique. Donc, c'est une histoire de voie d'administration.
On ne démarre pas avec le patch. Hein.
Non, à moins qu'il le fume. S'il fume le patch, là, on peut commencer à s'inquiéter sur la gravité à la fois de l'addiction et de la comorbidité psychiatrique. Mais sur ce sujet-là, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. Et c'est difficile en France, parce qu'il est plus facile de dire on sait pas, sauf pour les iPhones, on sait pas si dans 50 ans ils donneront des lymphomes cérébraux ou pas. On n'en est pas sûr, vous voyez, au sens certain du terme, même si fort heureusement c'est peu probable. Bah, c'est la même chose pour la vape. C'est peu probable, c'est le meilleur moyen de sortie du tabagisme, c'est sans doute un distracteur par rapport aux jeunes. Vous entendez parler de la lutte contre les arômes, comment il faut pas que les puffs ou les poufs, etc., amènent. Bon, je veux bien, sauf que ça, pour l'instant, sur la plupart des études, c'est quand même plus des éléments distracteurs qui évitent de rentrer, encore une fois, dans le tabac avec combustion qui donne les cancers, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Et je finirai quand même là-dessus pour vraiment en compassion avec les politiques, parce que ils réalisent pas la nécessité de régulation qui arrive, hein. Actuellement, je discutais avec un collègue viennois, enfin autrichien, pardon, politique hier, ils en sont à, cette année 2023, à 1300 nouveaux produits dérivés du tabac ou de la nicotine ou de la caféine ou de la taurine. Il y a quelques papiers sur le sniff maintenant de taurine et de caféine qui vient d'apparaître. Ça s'appelle Sniffy, tu vois. Ouais, mais ça, tu peux multiplier par 1000. Ouais. Et donc, quelle régulation on met en place sans pouvoir s'adosser avec certitude à la science, tu vois, à 100%, c'est toute la difficulté, parfois le courage politique.
Mais sur ce point-là, c'est juste pour quand même... la position de l'INCa, elle est claire là-dessus, c'est que ça a sa place dans le sevrage. Même si effectivement, on n'a pas d'études, on peut quand même penser que... c'est quand même moins toxique que le tabac et que ça peut être un des outils de la stratégie thérapeutique, de la stratégie beaucoup de sevrage. Bon, mais c'est pas partagé par tout le monde au niveau français. Hein. Nous, notre crainte, c'est le fait que le vapotage devienne la passerelle vers le tabac.
C'est pas le cas.
On voit que dans les industries et dans les stratégies des fabricants de tabac, il y a de plus en plus ça. C'est-à-dire une diversification de l'offre. Alors maintenant, il y a du tabac qu'on peut mettre dans la bouche, etc. Mais on n'en connaît pas encore les effets. Le vapotage sera probablement moins dangereux que la cigarette en tant que telle. Est-ce que le tabac dans la bouche le sera moins? On ne sait pas. Mais surtout, c'est du marketing, quoi. C'est du marketing pour aller vers le tabac. Le tabac, c'est notre ennemi numéro un en santé publique.
Oui, mais vous connaissez en alimentation...
C'est celui-là qu'il faut combattre en priorité. Vraiment en priorité.
Thierry, pour aller vraiment dans votre sens... On a fait le Nutri-Score. Difficilement, hein. A, B, C, D, E, je dis pas que pour le tabac, la nicotine, les nouveaux produits nicotiniques, ça puisse être suffisant. À mon avis, il faudra des scores et des scores et des lettres. Il va y avoir 1000 formes différentes. Quel est, au fond, ce qui va pouvoir être dit en sachant que, il y a ce qui est vendu chez le buraliste? Il y a ce qui est vendu chez les vape stores, qui vont avoir du mal à survivre, par rapport aux buralistes qui vont reprendre la vape, etc. Mais il y a tout ce qui est vendu sur Internet, quoi.
Bien sûr. Ouais.
Oui, oui.
Mais et moi, là, reste au sujet, tu vois, quelle consigne donner sur les 1300, tu vois, je pense à notre collègue.
Moi, je pense une consigne très, très simple. Alors là, c'est pas du principe de précaution, parce que c'est pas du tout sa définition de prudence, ne pas consommer.
Voilà. Mais est-ce que si un produit arrive, il faut l'inscrire sur une plateforme?
On va globaliser le sujet parce que c'est vrai qu'on pourrait faire tout sur le tabac, mais c'est pas la
raison. Oui, ce que je voulais dire, c'était le ramener au sujet des entreprises. Moi, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer dans la promotion.
De prévention?
Oui, bien sûr. Oui, parce que certaines le font. Mais elles peuvent jouer un rôle pour faire passer les messages, délivrer de l'information, dire comment les choses se passent. Alors, je suis pas entrepreneur au sens privé du terme, directeur général d'un établissement public, c'est pas tout à fait pareil. Évidemment, il y a des contraintes qui sont vraies. Mais je trouve qu'il y a un positionnement qui, on pourrait dire, un peu de responsabilité sociale, que de RSE, que certaines prennent et qui est intéressant pour nous. Nous, on est sûr d'une chose, hein, c'est que c'est pas à l'INCa ni au ministère qu'en décidant quelque chose, la transformation va se faire. Donc, on a besoin aussi que les entreprises puissent concourir.
Et être un relais, évidemment.
Voilà, efficace. Être des relais, évidemment, dans la mesure de ce qu'elles peuvent faire et des contraintes qu'elles ont. Mais c'est des acteurs qui sont très importants aussi pour nous.
On arrive bientôt au terme de cette table ronde. Oui, ça va être l'heure, effectivement. Jean-Luc, vous vouliez réagir à ce qui s'est dit par rapport à...
Je trouve très, très instructif et très pédagogique tout ce qui a été dit. Moi, je voulais rajouter un petit point par rapport à la mesure des indices. Donc, s'il n'y a pas de mesure, on a des difficultés à progresser. Et par exemple, chez freelance.com, on a un indice qu'on aime bien, c'est l'indice d'égalité femmes-hommes. On est arrivé à un score de 77 sur 100, ce qui est un bon score, et qu'on va essayer encore d'améliorer. C'est sur l'amélioration de la formation, d'égalité salariale, des opportunités partagées. Et alors, c'est pas de la médecine, mais moi, j'ai deux filles. Et franchement, le monde que j'ai envie de leur laisser, c'est un monde où les femmes peuvent raisonnablement avoir les mêmes carrières, avec les mêmes salaires, avec les mêmes opportunités, sans que ça devienne un exploit, sans qu'elles soient obligées d'en faire deux fois plus. Oui. Et ça, c'est une fierté que l'on a et que je suis ravi de partager avec vous, parce que on doit aller aussi dans ce sens-là. Vous travaillez sur la santé, nous on travaille sur le bien-être des collaborateurs, et c'est un point clé sur lequel on se bat tous les jours.
Bien évidemment. Je pense que ça fera l'objet d'un prochain colloque aussi, comment ça peut évoluer. En tout cas, c'était un grand plaisir d'animer cette table ronde, bien-être et nouvelles formes de travail. On l'a vu avec le bouleversement, le télétravail qui n'a pas amélioré. On a bien compris nos différentes addictions, le traitement du cancer qui progresse, bien évidemment, même si certains demeurent létaux, évidemment. Et puis expérience aussi. C'est très intéressant de voir partager tout ça. Attention à maintenir. C'est vrai que les jeunes générations sont peut-être plus à fond sur ce thème équilibre vie professionnelle, vie privée. Ben, ils n'ont peut-être pas tort. Il est temps de l'organiser également en entreprise. Un grand merci donc à Thierry Breton, le directeur général de l'Institut national du cancer. Merci au docteur William Lowenstein, interniste et addictologue, et Jean-Luc Zenoni, le vice-président de freelance.com. Dans un instant, la conclusion avec Sophie de Menton pour cette dernière table ronde, si j'ose dire, Santé en entreprise. Lien d'hier et de demain. À tout de suite.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.